I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Parmi les nouvelles les moins enthousiasmantes dans les perspectives déjà peu réjouissantes que nous offre le monde en 2020, on mettra assez haut dans le classement de l'enfer la liste qui circule désormais sur le net des livres consacrés au confinement, au virus, à la pandémie. Bref, tous ces essais, traités et autres manuels de survie qui vont bientôt fleurir sur les étals des librairies à peine réouvertes, écrits à la va-vite par tous les habituels pénibles qui nous abreuvent de leurs analyses stupéfiantes de plateau télé en plateau télé depuis notre plus tendre enfance. Aussi, tant qu'à parler de bouquins, plutôt que de donner encore plus d'écho à cette avalanche de médiocrité qui s'annonce, saisissons plutôt l'occasion pour nous pencher sur une étrangeté du paysage littéraire depuis 15 ans. Tout début mai, on apprenait la parution prochaine du 5e tome de la saga Twilight, écrit par la romancière américaine Stephanie Meyer, l'un des mastodontes de la littérature populaire de ce début du 21e siècle. 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, des films à succès, mais aussi des tas de critiques, des accusations d'hétéronormativité, de conservatisme, d'appropriation culturelle, bref, tout ça nous a donné envie d'en savoir plus, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
I'm not scared of you.
Well, you really shouldn't have said that. You better hold on tight, Spider Monkey. Do you trust me?
In theory.
Then close your eyes.
En savoir plus si au hasard, comme moi, vous n'avez jamais lu, jamais vu quoi que ce soit issu de cet univers que je vais vous résumer très brièvement en disant qu'il y a essentiellement question de l'histoire d'amour entre deux lycéens, Bella Swan, humaine américaine classique, et Edward Cullen qui s'avère être un vampire né en 1900, mort en 1918 et errant depuis à travers le pays. Il y a aussi des loups-garous, notamment le meilleur ami de Bella, Jacob Black, dont la présence transforme notre histoire en triangle amoureux. Voilà pour les grandes lignes. Pour comprendre pourquoi une histoire qui, dans ses grands traits, semble assez classique, a connu, à partir de sa parution en 2005, un tel succès, j'ai posé la question à Isabelle Rachel Casta, professeure émérite à l'Université d'Artois, spécialiste de la littérature fantastique.
D'abord, elle est une œuvre-monde. Et les œuvres-monde, depuis Tolkien, c'est-à-dire en fait l'après-Seconde Guerre mondiale, même si ça commence avant, sont attendus, sont espérés par le public pour des raisons d'investissement émotionnel, historique. Donc, lorsqu'elle arrive, elle arrive après Harry Potter, bien après une œuvre qui va exploser à la télévision, Le Journal d'un Vampire, et la saga du désir interdit exactement, puisque tel est le titre français qu'on n'utilise jamais en fait, s'inscrire et même s'incruster dans la longue histoire de ce qu'on appelle la bitlit, c'est-à-dire la littérature de morsure. Mais elle va récupérer de grands invariants de la littérature courtoise, venu du fond du Moyen-Âge, du XIIe siècle, d'ailleurs pour le situer très précisément, littérature courtoise destinée à des femmes, et parfois écrite par des femmes, et là ça va être, j'ai pu dire, massif, ce sont des femmes qui écrivent pour des femmes. Et donc Stephanie Meyer va arriver à un moment, crucial, névralgique, où tout l'apport de la chick lit, c'est-à-dire la littérature pour gamines, la chicken, c'est la petite poulette, va se muer en bitlit, c'est-à-dire en littérature vampirique, en littérature de morsure. Donc, elle s'inscrit dans un moment, je dirais vraiment névralgique, où la littérature pour jeunes filles devient hérite de toute la littérature vampirique pour adultes. Vraiment, parce que Dracula, qui en marque, le grand commencement, il y a des choses avant, Dracula est vraiment un ouvrage pour adultes. Bon. Stephanie Meyer, avec sa sensibilité mormone, va récupérer les grands invariants de l'éros, éros au sens dieu d'amour, hein, de l'éros médiéval et courtois, par la recherche de l'amour fou et de l'amour éternel. Or, nous vivons dans une société, lorsqu'elle est écrite en 2005, les deux tiers des filles qui vont la lire sont des enfants de divorcés. Donc, qui voient leurs parents se déchirer, qui voient des familles monoparentales recomposées, décomposées, rythmer leur quotidien, et qui ont bien sûr au fond d'elles l'aspiration romantique, si on peut dire, à un amour éternel. Or, quoi de plus éternel que la mort ? Donc, la création, la recréation de ce personnage extraordinaire d'Edouard Cullen va réactualiser, relégitimer la figure du prince charmant. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir la réactivation de ce qu'on appelle dans la littérature médiévale le puer senex. Je traduis tout de suite, hein, c'est-à-dire le jeune homme vieux. Puer, c'est le garçon, le jeune garçon. Senex, c'est le vieux. Il a à la fois toute la sagesse du vieillard, forcément il est mort en 18. Il a toute la sagesse de quelqu'un qui est né en 1900, à peu près, et qui vit en 2005 lorsqu'il rencontre Bella Swan. Eh bien, il a derrière lui toute cette sagesse accumulée sous un beau visage. Donc il est l'idéal oedipien absolu des jeunes filles, et Stéphanie Meyer s'adosse vraiment, pour une inscription légitimante, à une tradition, je dirais, lettrée, que l'on ignore la plupart du temps, mais qu'on repère à des petits détails. Alors, c'est une femme cultivée, on peut bien sûr s'amuser de certaines redites, de certaines figures de style dont, si vous voulez, la modernité n'est pas l'apanage. Mais elle a un cœur de cible, l'adolescente de 15 ans et demi. Hein, et il faut aussi respecter ce que les public relations des éditions viennent dire. Oh là là, attention, pas de phrases complexes, etc. Parce que aux États-Unis, il y a un cœur de cible, si vous voulez, désigné. Et il n'est pas question non plus de l'impressionner, de lui faire avoir l'impression qu'il est bête comme ses pieds, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il y a un cadre un petit peu contraint, allez, on va dire. Hein. Mais à l'intérieur de ces quatre contraints, il y a des repères extrêmement lettrés et, je dirais, extrêmement subtils.
On a parlé beaucoup de la tradition dans laquelle s'inscrivait Twilight. On s'est moins appesanti sur ce qu'elle a engendré, ce qu'elle a donné. Parce que forcément, on l'a dit, l'œuvre elle a 15 ans maintenant, donc elle a forcément eu un héritage. Qu'est-ce qu'elle a suscité, cette saga ?
Alors, je pense qu'elle a suscité d'abord énormément d'autres productions, évidemment, hein, de la Bycliffe. C'est-à-dire que au charme originel et peut-être aussi à la surprise originelle, hein, quand même, faire d'un vampire de 17 ans et demi le prototype même du prince charmant, c'est une nouveauté. Et cette nouveauté, elle va, comme tout acte fondateur, susciter des réussites, puis des moins bonnes réussites, puis alors une sorte d'océan de propositions vampiriques océan dans lequel on se noie un peu. Mais il y a du formidable, et je pense vraiment que les vampires de Manhattan, par exemple, hein, Mélissa de la Crouche, comme vous entendez son nom, de la Crouche, donc d'origine hispanique, donc plutôt tournée vers la tradition chrétienne, hein, chrétienne catholique, et non pas protestante, eh bien, c'est une proposition extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je vous conseille la fin. Les dernières pages renouent avec la grande épopée de Charlemagne, hein, et je pense que nous avons là un pur produit épique, alors que l'épicisme de Twilight est différent. Parce que c'est une histoire, vraiment, une histoire d'amour et de mort, exactement comme le plus beau conte d'amour et de mort, c'est-à-dire Tristan et Isolde, hein, qui est vraiment le modèle originel.
Ce qui frappe, comme souvent avec ces sagas très populaires, c'est que leur arrivée et leur succès énorme se fait souvent à contre-pied de la critique littéraire, voire du monde littéraire de manière générale, et qu'elles surprennent toujours autant, et que ça se retrouve de décennie en décennie, on retrouve le même phénomène. Comment est-ce qu'on l'explique ?
Alors, c'est vraiment une question très complexe. C'est vraiment une question très complexe parce que, tout simplement, nous, en France, notre tradition universitaire est extrêmement, et peut-être heureusement, je n'en sais rien, rigide. Mais notre tradition d'inscription légitimante française a énormément évolué sous, si je puis dire, et avec la présence et sous l'influence de ce qu'on appelle les acafanes. Les acafanes, ce sont littéralement... Bah, tiens, vous en avez une devant vous ou à l'écoute. Les académiques fanatiques, si vous voulez. Donc, les académiques au sens universitaire, c'est-à-dire qui ont toute la légitimité de l'institution. Je suis professeur émérite, donc j'ai une légitimité. Je parle d'un endroit qui est légitime. Et cela me permet de faire entrer, et d'une certaine façon d'autoriser, au sens strict du terme, l'auctor, c'est l'autorité, hein, et de faire entrer des objets d'études qui n'étaient pas effectivement reconnus, identifiés, calibrés, rubriqués comme nobles, guillemets, 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 dans mon champ de compétences. Et à partir de là, que ce soit Martine, que ce soit J.K. Rowling, que ce soit Stéphanie Meyer, je revendique l'entière liberté et le droit imprescriptible de les ériger en objets d'études tout aussi dignes d'interprétation et de recherche que Marcel Proust, que Julien Gracq, que par ailleurs j'adore, hein, que Gaston Leroux, Annie Ernaux, etc. aujourd'hui. Autrement dit, ces œuvres mondes bénéficient maintenant de cette auctoritas, et je remets des guillemets, pour entrer dans le champ des connaissances, de l'interprétation, de la polysémie, etc.
Mais on l'a dit, tout ça ne va pas sans critique. Outre les questions d'appropriation culturelle autour du personnage de Jacob, qui est censé incarner l'héritage amérindien, il y a celle des rapports hommes-femmes et de la misogynie supposée de la saga. Alors c'est pas nouveau, on l'aura constaté en notant que le problématique Fifty Shades of Grey est à la base d'une fanfiction de Twilight, par exemple. Sur ce sujet précis, j'ai discuté avec une autre universitaire, Lucie Bernard, spécialiste de cette littérature vampirique contemporaine, et je lui ai demandé s'il n'y avait pas un paradoxe à imaginer une saga d'allure assez conservatrice quand même sur le plan des idées, séduire un public jeune et donc possible plutôt branché progressisme que patriarcat.
C'est une assez bonne question en fait, de savoir si le public de le lectorat Twilight est un public plutôt jeune, branché et inclusif, comme vous dites. C'est pas forcément un lectorat qui est facile à étudier parce qu'elles sont majoritairement des femmes. Elles sont assez peu présentes sur les réseaux par rapport à d'autres fandoms. J'ai jamais, par exemple, vu sur les forums que j'ai pu étudier de lectrices de Twilight qui revendiquent d'être féministes, par exemple, ou qui revendiquent un engagement politique en même temps que... ou qui expliquent pourquoi est-ce que pour elle, lire Twilight n'était pas un problème pour son engagement féministe, par exemple. Donc ça existe très probablement. C'est pas forcément un public très politisé, d'après ce que j'ai pu observer, moi, au cours de mes travaux, en fait.
Alors que Twilight, quelque part, est politisé. Il y a une proposition politique, peut-être pas au sens strict, mais où on peut voir des échos politiques ou des échos religieux ou des échos d'un système de pensée qui est celui de son autrice.
Oui, alors ça, c'est très clair. C'est particulièrement clair puisque donc Stéphanie Meyer est mormone et qu'effectivement il y a des détails assez précis dans les ouvrages qui évoquent le mormonisme. Par exemple, l'implication de la famille du marié dans la préparation de la mariée à son époux, hein, c'est la sœur de Edward Cullen qui prépare la valise de nuit de noces de l'héroïne Bella, par exemple. Et donc, il choisit notamment ses habits, la petite lingerie pour exciter son frère. Ça paraît très étrange pour quelqu'un qui serait, bon, d'un monde extérieur. Mais voilà, ça évoque la tradition mormone, où c'est bien, c'est la famille, en fait, des époux qui prépare la mariée pour le marié. Voilà, donc, il y a des détails très précis comme ça. Effectivement, c'est un ouvrage, clairement, qui est écrit par une personne très croyante, mormone, et qui probablement adhère à des représentations du monde assez conservatrices. Après, alors, enfin, moi, c'était la façon dont j'ai analysé cette série. Mais finalement, c'est une série qui s'inscrit vraiment dans la tradition des romans sentimentaux. Vous voyez, les romans harlequins, ce genre d'ouvrage, en fait. Et ça reprend vraiment les mêmes schémas narratifs, les mêmes grands principe d'écriture, l'héroïne ressemble beaucoup aux héroïnes des romans harlequins, le héros ressemble au héros des romans harlequins, c'est le même genre d'histoire qui est racontée, et le même genre effectivement de principe. Hein. Donc ça, c'est des histoires dans lesquelles l'héroïne est vierge, elle va avoir un coup de foudre pour un héros qui est plus fort qu'elle, plus riche, qui a plus de pouvoir physique, social, économique. Ils vont découvrir qui c'est, mais il va y avoir des tensions entre eux, etc. Le héros a des comportements violents avec l'héroïne, mais qui sont en réalité une marque d'amour. Ça montre qu'il l'aime vraiment. Et à la fin, effectivement, il se marie, il n'y aura consommation sexuelle qu'après le mariage, et l'héroïne trouve le bonheur et la satisfaction, l'épanouissement, là encore, personnel, mais aussi social et économique, grâce à son mariage avec cet homme dominateur. Donc effectivement, c'est pas très progressiste. Enfin, ça paraît pas très progressiste dit comme ça. Comme les romans harlequins et comme les romans sentimentaux en général, enfin, je pense pas qu'on puisse qualifier Twilight d'un roman strictement conservateur ou patriarcal, par exemple, parce que ça se centre sur l'héroïne complètement. Hein. On a une héroïne adolescente qui parle et qui raconte son histoire. C'est écrit à la première personne du singulier, et donc on n'a que son point de vue à elle, c'est son interprétation du monde, son ressenti, on est depuis son intériorité à elle. Donc finalement, c'est quand même une façon de donner corps à une expérience, un ressenti féminin qui n'est jamais invité à s'exprimer, typiquement dans cet univers patriarcal très conservateur où les femmes sont faites pour rester vierges jusqu'au mariage et donner des enfants à leurs époux. Pour moi, Twilight, c'est une expression très intime, très personnelle, écrite par une femme et donc lue, ressentie, partagée par majoritairement des femmes, de ce que c'est que l'expérience féminine dans un monde qui est très patriarcal et très conservateur. Donc si vous voulez, l'aspect, c'est politique un petit peu sans le vouloir. Ce sont des romans qui mettent en scène un univers extrêmement politisé, très conservateur, mais qui effectivement décrivent ce monde conservateur comme une sorte d'état de fait, si vous voulez. Ah ben voilà comment est le monde. Comme disait Janice Radway, qui a travaillé sur les lectrices de romans harlequins, donc elle se posait exactement la même question, qu'est-ce qu'elles apprécient dans ces romans qui sont finalement très violents, avec des hommes très dominateurs, très machos. Finalement, si ce sont des histoires qui mettent en scène la violence masculine, finalement, c'est pas tellement parce que les lectrices apprécient ou désirent cette violence masculine, mais c'est parce qu'elles n'arrivent pas à imaginer sans. Elles n'arrivent pas à imaginer un monde dans lequel il n'y ait pas cette violence masculine. Et donc, Twilight, au moins, se place dans cet univers où, voilà, c'est comme ça. Le monde est violent, les femmes sont faibles, elles sont là pour se faire taper dessus et se faire marier à des hommes plus forts qu'eux. Il n'y a même pas à discuter de ça, il n'y a même pas à le remettre en cause. C'est comme ça que le monde existe. Mais au moins, je vais raconter, moi, on va se centrer complètement sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux faire en tant que femme avec toute mon intériorité, mes pensées, ma sensibilité dans cet univers-là. Donc pour moi, il y a quand même une forme de résistance. Mais c'est apolitisé. Dans le sens où ça ne s'inscrit pas du tout dans une démarche politique de résistance, c'est une résistance intime, en fait.
Mais est-ce que cette résistance ne s'accompagne pas d'un constat d'échec, là aussi involontaire ou inconscient, ou d'un constat de l'impossibilité de proposer d'autres systèmes narratifs que ces histoires hétéronormées qu'on répète décennie après décennie, génération après génération, qui se transmettent un peu comme une mauvaise habitude, quelque part.
Oui, c'est une bonne question. Est-ce que la fiction renforce et encourage les représentations qu'on a dans le réel, ou est-ce que c'est l'inverse ? Enfin, évidemment, c'est un peu les deux, hein. Plus on raconte des histoires comme ça, plus ça normalise la violence patriarcale dans le vrai monde, entre guillemets. Il me semble quand même que le succès de Twilight montre que ça répond à un vrai besoin chez son lectorat. Donc, ça touche quelque chose de quand même très, très fort chez ses lectrices, ce qui, moi, me laisserait à penser que s'il y a un besoin aussi intense pour une histoire très patriarcale, finalement, c'est que ce sont des lectrices qui ont déjà, au moment où elles rencontrent Twilight, elles ont déjà été aux prises avec des formes de violence patriarcale. Voilà. Donc, c'est des adolescentes qui grandissent dans un monde avec énormément d'objectification du corps féminin et de la sexualité féminine autour d'elles. Elles ont déjà besoin de donner un sens à la violence dont elles ont pu soit faire l'expérience elles-mêmes directement, soit au minimum observer autour d'elles. Et une violence patriarcale qui est rarement justement racontée du point de vue féminin. Je veux dire, c'est des choses qui ont été déjà beaucoup analysées, critiquées, commentées, mais n'importe quelle série policière du samedi soir, 9 fois sur 10, on va avoir un cadavre de femme très sexualisée qui va être là juste pour mettre en scène l'enquête du héros détective. Bien, voilà, des corps de femmes violentées et sexualisées, les deux toujours en même temps, on en trouve partout. Et c'est jamais raconté, encore une fois, du point de vue féminin. C'est, on a un corps avec des seins et des fesses qui est là pour être sexy, mais quand même qui est mort, qui est couvert de sang, peu importe. C'est là pour mettre en scène, pour titiller le héros et les spectateurs présumés masculins. Il y a eu des progrès, mais ça reste très, très présent. Donc, dans ce genre d'environnement, moi, je trouve ça tout à fait normal que les adolescentes se tournent, qu'elles aient vraiment besoin, qu'elles aient une faim très forte pour un récit qui va raconter de la violence faite par des hommes hétérosexuels envers des femmes hétérosexuelles, mais qui raconte ça du point de vue féminin et en essayant de donner un sens qui soit positif, qui soit constructif pour l'héroïne. Pour moi, c'est plutôt une conséquence, si vous voulez. On continuera à raconter ce genre d'histoire. Les adolescentes auront besoin de continuer à lire ce genre d'histoire tant qu'elles vivront dans un monde où elles se sentent exposées à la violence dans le cadre de relations hétérosexuelles.
Par ailleurs, hasard ou pas de cette année décidément étrange jusqu'au bout, l'autre grand étendard de la littérature pour ados et jeunes adultes du début du siècle, Hunger Games, fait aussi son retour en librairie avec un nouveau tome. Manque plus qu'un nouveau Harry Potter et on sera officiellement de retour en 2008. Merci à Isabelle Rachel Casta et à Lucie Bernard pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de tousser dans vos coudes, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.